Grenoble, Alpes, Métropole présente Presse Citron, des conférences acidulées pour parler de demain. Vous écoutez Amandine Le Breton, directrice du Pacte du Pouvoir de Vivre, une alliance d'organisations unies pour porter ensemble des réponses aux enjeux environnementaux, sociaux, économiques et démocratiques.
Bonsoir. Alors la Métropole est très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette première série de conférences Presse Citron, des conférences acidulées pour parler de demain. Ce sera une série de conférences qui aura lieu un jeudi par mois entre novembre et juin dans cette salle, à cet horaire-là. Donc on espère que pour beaucoup d'entre vous, ça va devenir une habitude, un rendez-vous pour venir échanger. L'idée de ces conférences, c'est de donner carte blanche à une personne qui nous apporte une pensée, qui nous aide à réfléchir, à nous projeter et à débattre ensemble. Donc 45 minutes de carte blanche et puis après un temps d'échange tous ensemble.
Merci, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci à la Métropole de Grenoble de m'accueillir ce soir. Je suis vraiment ravie d'être ici devant vous. Donc, je suis Amandine Le Breton, donc je suis directrice du Pacte du Pouvoir de Vivre, que je vais vous présenter dans quelques instants. Je suis agronome de formation, j'ai travaillé pendant 15 ans à la Fondation pour la Nature et l'Homme et j'ai rejoint ce très beau collectif il y a quelques mois maintenant. Mais c'est un collectif qui n'est pas si récent. Il a été créé... ce pacte du pouvoir de vivre à la suite de la crise des gilets jaunes. Et ce moment, en fait, c'est vraiment, il s'est créé vraiment en réponse à cette crise sur deux enjeux. D'abord, sur le fait que la crise des gilets jaunes marquait une forme de tournant démocratique et a posé des questions démocratiques extrêmement fortes en France. Ces questions démocratiques perdurent, évidemment, on l'a vu en début de cette année suite à la réforme et pendant la mobilisation de la réforme des retraites. Et puis, la crise des gilets jaunes marquait finalement, de manière très publique et très ouverte, la question du lien entre transition écologique et justice sociale, puisque la crise est née de cette opposition, et c'est là qu'est née cette fameuse expression « fin du monde et fin du mois ». Donc ce collectif du Pacte du Pouvoir de Vivre, il rassemble aujourd'hui une soixantaine d'organisations, parmi les plus importantes de la société civile, la Fondation Abbé Pierre, le Secours catholique, ATD Carmont, Oxfam, le Réseau Action Climat, la CIMAD, France Terre d'Asile, un syndicat, la CFDT, la Mutualité Française et plein d'associations et d'organisations, y compris de l'ESS et de l'éducation populaire. Donc c'est 60 organisations aujourd'hui, c'est aussi 40 groupes locaux partout en France. C'est-à-dire que de la même manière que nos organisations au niveau national se sont dit en 2019 que finalement elles n'avaient jamais travaillé ensemble, elles n'avaient jamais cherché à créer un espace où on faisait les liens entre écologie sociale et démocratie, au niveau local les associations se sont réunies pour porter ces mêmes dynamiques d'alliance. Donc notre collectif aujourd'hui il a bientôt 5 ans. Il continue de travailler à concrétiser la transition écologique en lien avec la justice sociale et en lien avec le renouveau démocratique. Et c'est clairement ces trois piliers qui font aujourd'hui l'action du collectif. Mais c'est aussi autre chose. C'est aussi la nécessité de montrer et de démontrer que la société civile organisée, des associations, des organisations, des fondations, des syndicats, agissent au quotidien, ont une expertise, ont une expérience, ont un rôle de maillage sur les territoires, ont un rôle, on en parlait tout à l'heure avec le groupe local d'Isère, ont un rôle d'opérateur aussi des solidarités. Et ça, il faut qu'on soit fiers, nous, les organisations de la société civile, de montrer aussi toute cette action pour pouvoir nourrir les politiques publiques. Et c'est pour cette raison que je suis ravie d'être ici ce soir pour aussi ouvrir le débat sur la manière dont on peut opérer concrètement les transitions écologiques, une transition écologique juste, comment on maintient un niveau de protection sociale fort en France et comment on revitalise la démocratie. Le pacte du pouvoir de vivre a vocation vraiment à porter un projet de société, c'est ce qui fait la force de croiser justement la vision de tous ces acteurs. Je parlais tout à l'heure de cette expression « fin du monde et fin du mois » dont on a beaucoup entendu parler, on va dire, depuis la crise des gilets jaunes. On entend aussi beaucoup parler de transition écologique juste et finalement, on peut observer que depuis 5 ans, ça a bien irrigué les discours. Je pense qu'on l'entend dans tous les discours, on l'a entendu pendant la campagne à l'élection présidentielle. La question, c'est concrètement, est-ce qu'on y est à cette transition écologique juste? Et notamment, si je reprends les termes du titre de cette conférence, est-ce que on a trouvé cet équilibre entre transition écologique et justice sociale? J'ai voulu me poser la question de finalement, est-ce que c'est vraiment l'équilibre qu'on cherchait? Est-ce que vraiment, ce qu'il y a devant nous, c'est de mettre un petit peu d'écologie, un petit peu de social, et puis d'ajuster quand on sent que l'un se fait au détriment de l'autre? Est-ce que ce sont des forces qui s'opposent? Est-ce que vraiment on a à construire ces forces l'une en opposition? Je pense que la réponse est aussi évidente pour vous que pour moi et que pour nous au Pacte du pouvoir de vivre. La réponse, c'est que pour nous, transition écologique, justice sociale et enjeux démocratiques sont profondément liés. Leurs destins sont liés, c'est-à-dire l'avenir de la transition écologique ne passera que par des enjeux de justice sociale. On ne pourra avoir une société qui lutte contre les inégalités que si on s'engage profondément dans la transition écologique. Et j'irai même plus loin, c'est que la crise démocratique dans laquelle on est aujourd'hui freine cette transition, freine la transition écologique juste. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que ça, c'est une conviction très forte des organisations du Pacte du pouvoir de vivre, mais c'est aussi une conviction d'un certain nombre de citoyens, puisqu'on a fait un sondage en avril dernier, où on a posé la question justement aux citoyens s'ils pensaient que cette crise démocratique, je vous rappelle qu'en avril, on était en pleine mobilisation contre la réforme des retraites, est-ce qu'ils pensaient que cette crise démocratique pouvait freiner la transition écologique et sociale? Et à 83%, les citoyens ont dit oui. Donc on sent bien, et je pense que ça démontre, et on le vit tous les jours, qu'on ne peut pas dissocier écologie, sociale et démocratie. Donc le pacte du pouvoir de vivre, notre enjeu collectivement, c'est de travailler ensemble déjà, c'est pas rien. C'est pas rien que de mettre ensemble des cultures différentes, des cultures de travail, des visions d'un certain nombre d'enjeux, des connaissances aussi très, très différentes. Et notre ligne de travail, notre espace de travail, c'est finalement le fameux donut de Kate Raworth. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une économiste qui a défini, on va dire, l'espace de transition écologique juste comme un donut. Vous voyez un donut, si vous le symbolisez, c'est un cercle à l'intérieur, un cercle à l'extérieur. Donc ce cercle du milieu, du donut, sont les besoins humains en termes d'alimentation, en termes de logement, en termes de mobilité, mais aussi en termes de paix, d'éducation, d'accès à la culture. Elle dit qu'on ne peut pas aller en deçà des besoins essentiels de chaque humain. Donc ça, c'est la première limite dans laquelle on se place. La limite externe, c'est la limite planétaire. Aujourd'hui, le changement climatique, la perte de biodiversité, l'érosion des sols, les pollutions, l'acidification des océans, nous donnent des limites communes qu'on ne doit pas dépasser. Et donc le travail qu'on a à faire collectivement, c'est de se placer entre ces deux lignes du donut, la ligne interne, la ligne externe, pour trouver des voies de passage. On ne doit pas choisir d'aller essentiellement vers les besoins humains. Évidemment, il faut y aller, mais ce n'est jamais au détriment de l'environnement. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit, et dans ce donut finalement, que se place l'action et la réflexion des organisations du pacte du pouvoir de vivre. Le deuxième enjeu pour nous, et je pense que là, depuis un certain nombre d'années, on y est vraiment confronté, c'est un peu un défi de la méthode. On sent bien que la complexité est devant nous. Si on veut vraiment concilier écologie, sociale et démocratie, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de réponse unique, il n'y a pas de grand soir et de mesure qui va tout résoudre d'un coup. Donc il y a la question du comment on fait et de comment on organise ça, comment on s'organise et comment on en discute. Il y a un terme qu'on entend souvent, c'est qu'il faut rendre la transition écologique acceptable. Moi, c'est un terme que je n'utilise pas, pour lequel je suis très prudente, parce que qui dit acceptabilité dit vision descendante de la transition, dit le fait que certains trouvent des solutions et que d'autres les accepteront. Ce n'est pas la vision qu'on porte collectivement au Pacte du pouvoir de vivre. On pense que pour que cette transition écologique juste et cette justice sociale s'opère, il faut que tout le monde soit acteur de ces transitions. Tout le monde, ça veut dire évidemment les acteurs publics, les acteurs politiques, les organisations, les associations, mais aussi les citoyens. Il faut prendre part à définir ces solutions. Et c'est pour ça que transition écologique et justice sociale ont profondément à voir avec l'enjeu démocratique. Et donc, quand notamment pendant la réforme des retraites, on a posé la question de « est-ce que vraiment on est dans une crise démocratique ?», le pacte du pouvoir de vivre a dit oui, que selon lui, on était, selon nous, donc on était dans une crise démocratique et qu'il y avait une urgence à réarticuler, comme le dit très bien Pierre Rosanvallon, démocratie représentative, démocratie citoyenne et participative et démocratie sociale. Et donc, il n'y a absolument pas, évidemment, à opposer les engagements citoyens, les engagements associatifs et les engagements des élus dont on a profondément besoin. Un autre enjeu pour nous, et qui est un enjeu aussi très lié à la méthode, c'est qu'on sent bien que quand on parle d'enjeux sociaux, je vais y revenir tout à l'heure sur des objectifs de sortie de la pauvreté à 2030 en France, par exemple, ou quand on parle de neutralité carbone à 2050, on a besoin de ces caps, on a besoin de ces horizons, puisque tout le monde, ça permet à tout le monde de se placer dans la même direction et de regarder le même horizon. Sauf que quand on a dit ça, en fait, on n'a quasiment rien dit. J'allais dire on n'a rien dit. On n'a quasiment rien dit. C'est-à-dire un cap, c'est une ligne, c'est un point d'arrivée. Sauf que pour aller à ce point d'arrivée, il faut des chemins. Et il faut que ces chemins se concrétisent aux yeux des gens. Je vais prendre un exemple. Vous savez peut-être qu'au niveau européen, a été décidé qu'en 2035, on ne vendrait plus de véhicules diesel et essence en Europe. Donc ça veut dire qu'on pourra toujours rouler avec son véhicule, mais on n'en vendrait plus. Ça, évidemment, en termes d'enjeux de mobilité, ça a des impacts très forts pour les citoyens que nous sommes. Ça a des impacts extrêmement forts pour les économies et les industries. Il y a 3 ans, cet objectif a été posé sur la table. À aucun moment, il y a eu l'espace de discussion de savoir, il y a 3 ans, au moment où cet objectif a été posé, de savoir comment on faisait. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire que cet objectif pour les travailleurs du secteur automobile, qu'est-ce que ça veut dire pour eux en 2030 ? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux en 2032 ? Si on ne raconte pas la manière dont on va construire cette transition, comment on va arriver à cet objectif, on est à peu près sûr de jamais y arriver, on est à peu près sûr de créer des blocages, d'autant que ces blocages sont profondément légitimes, évidemment. Je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent dans le secteur de l'automobile, mais on ne peut que partager la crainte d'un ouvrier dans le secteur automobile qui construit des moteurs quand on lui dit qu'en 2035, son métier n'existera plus, puisque c'est de ça dont on parle. Donc, le défi de la méthode dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi de construire collectivement ces chemins-là et de pouvoir les raconter, ce fameux récit dont beaucoup de gens parlent. Finalement, ce fameux récit, il est absolument essentiel. Et au sein du pacte du pouvoir de vivre, avec ces organisations-là, on se dit qu'à minima, on se rencontrons nous, on crée une acculturation commune sur l'ensemble de ces problématiques, les enjeux du travail, les enjeux de la formation, de développement économique dans les territoires, tout en gardant le cap de réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut qu'on trouve ces espaces de travail pour construire ces transitions et réduire ce niveau de crainte qui peut exister, d'incompréhension parfois. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut réussir à avancer. Alors, le pacte du pouvoir de vivre, depuis sa création, a construit peu à peu une vision commune en se rassemblant autour de propositions. 66 propositions en 2019, qu'on a réactualisées en amont des élections présidentielles en 2022. On a aujourd'hui 90 propositions. On travaille actuellement à faire des propositions pour les élections européennes. Et l'idée, c'est de créer un espace de confiance. Vous imaginez bien que pour une organisation, par exemple, qui travaille sur l'environnement, ce n'est pas une évidence absolue que de se positionner sur les enjeux du RSA, par exemple. Et donc, on a créé cet espace de confiance où on porte ensemble 90 propositions, et leur force, selon nous, c'est qu'ils forment un tout, en fait. Ils forment un projet de société. Et que c'est une erreur de penser qu'on peut choisir la proposition 12 plus la proposition 28 plus la proposition 53, et qu'avec ces 3 propositions, on fera les transitions. Non, ces transitions forment un tout et forment un vrai projet et une vraie vision. Donc on a construit, on a essayé de construire avec aussi, enfin il n'est pas exhaustif complètement ce projet, mais on a tenté de construire ce projet de société avec 2 enjeux pour nous. Le premier, c'est de donner le pouvoir de vivre dignement à chacun, chacune, dans un environnement sain. Le second, c'est de donner le pouvoir d'agir. Et cette idée de pouvoir de partager le pouvoir, de se mettre en capacité collectivement, que chacun soit acteur, en fait, il est fondamental dans le projet du pacte du pouvoir de vivre. Donc ça veut dire quoi concrètement ? Je vais prendre quatre grandes entrées. Le pouvoir de vivre dignement. Donc il y a eu la crise de la Covid, évidemment, il y a eu la guerre en Ukraine, mais la pauvreté, elle est présente en France depuis quand même très longtemps. Il y a la sortie du film sur l'abbé Pierre, d'ailleurs, qui le montre très bien. Aujourd'hui, il y a 9 millions de personnes pauvres en France et des centaines de milliers de personnes qui risquent de basculer dans la pauvreté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour des millions de personnes, au quotidien, il faut choisir entre se chauffer, se nourrir, se loger, se déplacer et se soigner. Et ça, clairement, c'est évidemment pas acceptable. L'aide alimentaire a été multipliée par 3 en 10 ans et a fait plus 10% depuis 2022. Il y a un tiers des personnes pauvres en France sont des enfants. Vous avez peut-être entendu aujourd'hui qu'en France, il y a à peu près 2800 enfants qui dorment dans la rue chaque soir. Donc la pauvreté, elle est là. Et je parlais tout à l'heure de l'objectif que s'est donné la France dans sa stratégie de lutte contre la pauvreté, de réduire la pauvreté, d'éradiquer la pauvreté à 2030. Et bien nous, on essaye d'y répondre avec le pacte du pouvoir de vivre, en apportant un certain nombre de solutions. Je ne vais pas toutes les décrire ici, mais on pense qu'il y a des enjeux de protection sociale très fortes. La protection sociale, elle est présente en France. Nous, on ne va pas dire qu'elle n'existe pas. En revanche, elle est affaiblie. Elle est fragilisée et elle est détricotée peu à peu. Vous avez dû suivre les débats qu'il y avait dans le projet de loi plein emploi sur le RSA et sa conditionnalité, qui change la vision pleinement qui est le RSA, qui est un revenu de solidarité active. Et pour le pacte du pouvoir de vivre, il doit rester évidemment inconditionnel. Donc on regrette profondément ce choix politique de le conditionner, sans parler des questions de faisabilité de cette mesure. Et avec le pacte du pouvoir de vivre, on va plus loin. On pense que le RSA doit devenir un revenu minimum garanti. Aujourd'hui, avec 600 euros, qui est le montant du RSA, on ne vit pas, on survit. Marie-Alette Grard, la présidente d'ATD Quart-Monde, le dit extrêmement bien, elle l'illustre bien évidemment. Voilà, on survit. Et est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, dans un pays riche comme la France, on accepte que des personnes survivent? Non, on ne l'accepte pas. Donc on propose que ce revenu minimum garanti passe à 50% du revenu médian. Ce qui fait autour de un peu plus de 900 euros. On propose le triplement du chèque énergie dans ce moment difficile où l'inflation reste forte, où le bouclier énergie s'affaiblit. On redemande une revalorisation des APL. Les associations restaient surprises d'entendre en 2017, quand on a supprimé les 5 euros d'APL, que 5 euros c'est rien. 5 euros, c'est rien. Ça dépend pour qui. 5 euros, c'est beaucoup pour certaines personnes. Et donc, on demande vraiment la revalorisation de ces APL. Monsieur le Président parlait tout à l'heure de la loi immigration. Je ne vais pas revenir sur la suppression potentielle de l'aide médicale d'État. Mais pour le pacte du pouvoir de vivre, ce n'est pas acceptable. Et on doit donner les moyens à tout le monde de vivre dignement. Donc ça, c'est un socle fondateur des propositions du pacte du pouvoir de vivre, auquel s'ajoute un socle évidemment tout aussi fondamental qui est la transition écologique. On a partagé au sein du pacte du pouvoir de vivre la question de l'urgence de la transition. Quand on parle de neutralité carbone à 2050, ça a des conséquences considérables, évidemment, pour chacun d'entre nous. Quand on parle de préserver la biodiversité, qui est quand même le parent pauvre des politiques publiques en matière d'environnement encore aujourd'hui, ça a des conséquences considérables pour nous, en termes de changement, de conditions de vie. Mais ça aura aussi des conséquences considérables sur un pouvoir de vivre dans un environnement plus sain. Et on a un enjeu à raconter ce que ça apportera comme en termes de qualité de l'air, en termes de moindre impact du changement climatique, en termes d'environnement sain, plus loin des pollutions. Donc on essaye de raconter ce que serait ce monde de demain où on aurait réussi à préserver l'environnement. Mais on ne se cache pas non plus derrière, la difficulté, ou en tout cas les enjeux qu'il y a devant nous à mettre en place l'ensemble de ces politiques publiques. Et vous avez peut-être vu un travail qui a été fait par Carbone 4, qui montrait que l'effort face aux enjeux écologiques, certes, il devait être pris en charge en partie par les individus. Évidemment, chacun de nous devra s'impliquer pour faire cette transition. En revanche, la part individuelle de l'engagement n'est que 25% de la part globale que chacun doit prendre. L'État, notamment, doit prendre sa part. Les entreprises doivent prendre leur part. Et ça, c'est important de ne pas faire peser uniquement sur les épaules des citoyens l'engagement en termes de transition écologique et de montrer qu'on a besoin profondément des pouvoirs publics pour apporter des réponses structurelles et pour donner aux citoyens le choix d'une mobilité plus durable, aux citoyens le choix d'une alimentation plus durable et plus responsable, aux citoyens le choix d'avoir un logement isolé. Si les pouvoirs publics n'apportent pas ces réponses, il est certain qu'on ne fera pas cette transition écologique pour laquelle il y a évidemment aussi une urgence. Alors je disais tout à l'heure qu'on entend beaucoup les enjeux de transition écologique juste dans les discours, on parle beaucoup de planification écologique notamment. Et donc, il y a un travail assez intéressant de Dive for CE, qui est un think tank qui travaille sur économie et climat, qui vient de sortir une étude sur les aides aux ménages. Finalement, est-ce que les pouvoirs publics aident davantage les ménages en termes de transition écologique? Donc, leurs conclusions sont que, en effet, les aides aux ménages ont augmenté entre 2008 et 2023. Au maximum, elles sont passées de 20 000 euros à 50 000 euros. Donc oui, on aide plus les ménages à faire la transition écologique. Ils ont aussi montré que ces aides étaient plus ciblées. Les ménages modestes et moyens, et les classes moyennes, reçoivent environ deux fois plus d'aides que les ménages aisés. En revanche, ça ne suffit pas, puisque vous savez peut-être ou probablement que, par exemple, la rénovation de son logement, c'est entre 50 et 70 000 euros. Acheter une voiture électrique, c'est entre 30 000 et 50 000 euros. Ce qui veut dire que, pour beaucoup de ménages, on parle de plusieurs années de revenus. Et donc, la troisième conclusion de ce travail, c'est de montrer qu'il faut encore augmenter ces aides pour accompagner notamment les ménages les plus pauvres, les plus modestes, aussi une partie des classes moyennes, dans ces transitions pour fondamentalement l'accélérer. Et il démontre aussi autre chose sur lequel on est très attaché aussi dans le collectif, c'est que on sent bien que les transitions écologiques justes ne sera pas complètement facile et qu'il y a un certain nombre de nœuds, de points de blocage, de points de tension. Et d'ailleurs, c'est toute la valeur ajoutée du collectif qu'on est, d'identifier ces points de tension. On parle beaucoup des ZFE. Je crois qu'à la métropole de Grenoble, c'est un sujet aussi qui mobilise beaucoup, qui avance, sur lequel vous discutez beaucoup. Mais il y a plein d'autres sujets, en fait, pour lesquels la transition et le lien avec les dimensions sociales ne sont pas si simples. Il y a l'alimentation et l'accès au bio, y compris dans les cantines. Il y a la question de la rénovation des logements, puisque même un reste à charge de 6 000 euros pour beaucoup de ménages, c'est beaucoup trop. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de nœuds, et que tant qu'on n'identifie pas précisément ces nœuds et qu'on ne se met pas autour de la table pour y travailler, pour construire des réponses adaptées, on sera sujet à un certain nombre de blocages, voire de reculs dans la transition écologique. Vous avez peut-être vu en Allemagne qu'il y avait une montée de boucliers sur les chaudières au fioul, parce que les pouvoirs publics n'avaient pas suffisamment anticipé les blocages subis par un certain nombre de personnes, et donc réels, encore une fois, ce sont des réalités. Ils n'avaient pas suffisamment anticipé, et il y a une forme de recul qui est en train de s'opérer sur un certain nombre de sujets. Donc le défaut d'anticipation des pouvoirs publics sur là où peut y avoir des points de tension, des points de friction, des points de questionnement parfois, il peut être délétère pour la transition et il conduira, selon nous, à l'immobilisme. Et c'est pour ça que le défi de méthode dont je parlais tout à l'heure, de réussir à construire des espaces où on construit les chemins de la transition, les feuilles de route concrètes, ils sont nécessaires parce qu'on ne peut plus seulement donner des grands objectifs, on ne peut plus seulement prétendre qu'avec une mesure, on réussira à faire la transition écologique juste. En fait, il faut se mettre au travail concrètement et apporter des réponses concrètes et aussi les ajuster. Admettre que chacun dans son coin n'a pas la réponse parfaite. Alors ça peut paraître étrange, les associations, les organisations sont souvent vues comme étant très affirmatives sur les réponses à apporter. Nous, on est clairement affirmatifs sur le cap dans lequel on veut aller. On veut répondre à la crise climatique, on veut répondre à la crise de biodiversité, on veut aussi répondre à lutter contre la pauvreté, lutter contre les inégalités. On a des pistes de solutions très fortes pour lesquelles on est extrêmement convaincus. En revanche, on admet de dire que peut-être qu'on n'a pas toutes les solutions et que très probablement, on doit se mettre autour de la table avec les acteurs économiques, avec les élus, avec les citoyens, pour vraiment les définir et être certain d'aller tous dans la bonne direction. Et ça peut être vu comme un contre-pied au débat politique actuel qui se veut parfois être une somme d'annonces sans organisation et sans opérationnalisation. Mais on est absolument certain qu'il faut retrouver une culture du consensus et du travail pour construire ces chemins de la transition, parce que clairement, ce qu'il y a devant nous n'est pas complètement simple. Et donc sur les enjeux du quotidien, le pacte du pouvoir de vivre et sur cette transition, on porte un enjeu très fort autour des cantines, avec certes la tarification sociale, on n'a pas de visibilité aujourd'hui hein, sur la tarification sociale partout en France, on en a dans quelques endroits, donc il faut avoir une idée claire de ce qu'on fait en France aujourd'hui dans les cantines, mais que cette vision, ce caractère social des cantines, il soit là aussi pour soutenir une agriculture de qualité, bio, locale, avec des repas végétariens. Voilà, donc ça c'est une proposition du pacte, de remettre la cantine au cœur d'une alimentation saine, accessible à tous. Il y a les enjeux de rénovation avec un reste à charge nul pour les ménages les plus modestes. Encore une fois, 6 000 euros pour un ménage au RSA, c'est impossible à tenir. Et donc ces personnes et ces familles continuent de vivre dans des passoires énergétiques. Ou encore, on a des propositions sur la mobilité. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de précarité énergétique, de précarité en termes de logement, mais on parle assez peu de précarité liée à la mobilité. Or, il y a 4 millions de personnes en France aujourd'hui qui n'ont aucun moyen de se déplacer, c'est-à-dire ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de vélo, ils n'ont pas de trottinette, mais ils n'ont pas non plus d'abonnement au transport en commun. C'est 4 millions de personnes. Et puis, il y a 9 millions de personnes qui se disent dépendantes à la voiture. Et qui ont une forme de fragilisation de la voiture. Donc là où la voiture était vue historiquement comme un outil de liberté, devient un piège pour 9 millions de personnes en France. Un piège économique, une voiture ça coûte très cher. Vous avez un problème sur votre voiture, il faut aller la réparer. Si ça vous coûte 1000 euros, c'est 1000 euros qu'il faut trouver je ne sais pas où. Mais je reviens à mon introduction qui disait il faut choisir entre réparer sa voiture ou manger ou se soigner. Donc une voiture, ça coûte cher. Les personnes sont dépendantes à la voiture parce qu'elles n'ont pas d'autre choix pour rejoindre leur lieu de travail, pour aller voir leur famille ou leurs parents ou leurs aînés, etc., que d'utiliser la voiture. Donc il y a un enjeu très fort de dépendance. Et donc dans les propositions du pacte du pouvoir de vivre, c'est évidemment de réduire cette dépendance à la voiture. C'est pas de dire il n'y a pas de voiture, il n'y a plus de voiture dans 2 ans. Ça n'a aucun sens, évidemment. Mais c'est d'avoir le choix, de donner le choix aux citoyens de pouvoir marcher, utiliser un vélo, mais aussi prendre les transports en commun et en tout cas ne plus être profondément dépendant de leur voiture et d'être fragilisé par cela dans leur quotidien. Il y a beaucoup de renoncements à la mobilité. Aujourd'hui, il y a 40% parmi les personnes les plus âgées qui disent avoir renoncé au moins une fois à un rendez-vous médical pour une raison de mobilité. Et donc ces renoncements liés à la mobilité ne sont pas acceptables aujourd'hui. Le troisième axe du pacte du pouvoir de vivre, c'est un axe alors qui paraît toujours technique. C'est celui du financement. La question de se donner les moyens d'agir, en fait, c'est fondamental. Alors, je vous apprends rien, puisqu'on dit toujours que l'argent est le nerf de la guerre. Alors, on ne dit pas que l'argent résout tout. En revanche, ce dont on est assez persuadé, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire plus de transition écologique et de justice sociale, et faire mieux en termes de protection sociale, avec moins d'argent public. Donc il y a une réflexion profonde à avoir sur comment on finance notre avenir, en définitive. Et donc on a un slogan, une façon de dire au pacte du pouvoir de vivre, c'est de dire qu'il faut partager plus pour financer plus. Pour la transition écologique, vous avez dû entendre parler du travail de Pisani-Ferry Mahfouz, qui évalue les besoins en termes de financement public pour la transition écologique autour de 25 à 35 milliards d'euros par an pour investir, je parlais tout à l'heure du transport, de la mobilité, de la rénovation, de l'industrie, etc., et pour accompagner les ménages. On a beaucoup entendu parler de ces besoins en termes d'investissement dans la transition écologique, et c'est très bien. On a besoin de ces niveaux d'investissement et d'augmenter les investissements. Mais en fait, ça ne doit pas complètement occulter le fait qu'on a besoin d'autres investissements. Je parlais tout à l'heure de protection sociale. Je parlais tout à l'heure du chèque énergie. Tripler le chèque énergie, comme le demande le pacte et de nombreuses associations de solidarité. C'est 2 milliards d'euros par an supplémentaires. Augmenter les bourses pour les étudiants. Vous connaissez la précarité des plus jeunes et en particulier chez les étudiants. Si on veut augmenter de 1 000 euros les bourses de 60% des étudiants, c'est 1 milliard d'euros par an supplémentaire. Si on veut mettre en place une politique de santé publique contre la perte d'autonomie, contre le plus grand âge, c'est environ 9 milliards d'euros par an. Donc en fait, si là encore, on a une vision en silo des problématiques, on peut se dire, 20 milliards, ça se trouve d'un côté. Sur la santé, 9 milliards, ça se trouve, mais on voit bien qu'on porte un projet de société global et que donc cette question du financement de ce projet de société est absolument fondamentale. Ce qu'on observe, c'est que quand on parle de loi de finances, de projet de loi de finances, de loi de financement de la sécurité sociale, tout de suite on tombe dans des débats techniques. Et de fait, ils le sont. C'est extrêmement technique que de travailler sur ces problématiques. Et c'est là où on peut se perdre, en fait. Alors même que, pour nous, ces questions du financement des transitions, du financement de notre avenir, c'est profondément un sujet démocratique et qui doit être un sujet ouvert. Donc le pacte du pouvoir de vivre demande à ce qu'on ouvre la réflexion sur le financement des transitions, transition écologique juste en particulier, et on demande à ce qu'on ouvre le débat sur la fiscalité. Aujourd'hui, c'est assumé par le gouvernement, il n'est pas question d'ouvrir ce sujet, de notamment faire contribuer ceux qui le peuvent davantage à l'effort national pour financer les transitions. Il y a eu des modifications sur un certain nombre de taxes pour financer la transition écologique. Mais pour le pacte du pouvoir de vivre, il faut une politique du partage des efforts. Ça permet plus de moyens, mais ça permet aussi plus de justice, plus d'engagement aussi dans la transition écologique. Vous avez peut-être entendu ce chiffre qui est porté au niveau international, mais qui dit que 1% des plus riches contribuent autant que 50% des plus pauvres au dérèglement climatique. On voit bien qu'il y a une responsabilité plus forte des plus aisés dans le désordre climatique. Il faut qu'il y ait un engagement, y compris un effort financier supplémentaire pour les plus aisés. Et donc nous, en tant que pacte du pouvoir de vivre, on demande d'ouvrir ce débat pour que ça ne reste pas un débat technique, celui de la fiscalité et du financement des transitions. Et donc notamment, on porte une taxe, par exemple, sur le patrimoine financier des plus aisés. On porte une progressivité de l'impôt sur le revenu, on porte le retour de l'ISF, on porte un certain nombre de choses pour être certain de relever les défis devant nous, parce qu'encore une fois, si on ne finance pas ce qu'on annonce, si on ne donne pas les moyens d'accompagner ceux qui en ont besoin et de changer structurellement la consommation et la production de biens dans notre pays, on ne fera pas ces transitions et on ne fera encore moins de manière juste. La dernière dimension qui est très forte et sur laquelle on s'investit beaucoup, j'en parlais tout à l'heure, c'est le pouvoir d'agir. Je parlais de partage du pouvoir. Ce qu'on observe là, nous, en tant qu'organisation, c'est une sorte de défiance de la société civile organisée par les pouvoirs publics, notamment au niveau national. Une forme de défiance et de souhait de faire avec les citoyens. Alors, à aucun moment, nous, on oppose démocratie citoyenne, démocratie sociale, démocratie représentative. On a besoin de tous, mais on a aussi besoin de la société civile. Les acteurs de la société civile, les associations de solidarité, les associations environnementales, tous ces acteurs-là font bouger un certain nombre de lignes, démontrent au quotidien et concrètement que la transition est possible, apportent des propositions concrètes à mettre dans le débat public. Aujourd'hui, cette énergie de la société civile qu'on observe au quotidien. Parce que sincèrement, je ne sais pas si les uns et les autres, vous êtes investis dans une association, dans un collectif, dans un collectif citoyen, etc. Mais cette énergie, on la sent, en fait. Il y a beaucoup de choses qui se font et qui se passent. Elle n'irrigue pas suffisamment les pouvoirs publics. Et ça, nous, en tant que pacte du pouvoir de vivre, on le regrette et on pense qu'il faut donner cette place à chacun pour être acteur et pour s'investir. Et on pense aussi qu'il faut redonner au mot politique, de la politique, son sens littéral, c'est-à-dire engagement dans la vie de la cité. Et que s'investir aujourd'hui dans un espace collectif, eh ben c'est faire de la politique. C'est faire de la politique autrement. Nous, aujourd'hui, le pacte du pouvoir de vivre, on n'est pas un parti, on n'a pas de candidat, mais on considère qu'on fait de la politique. Parce qu'on porte une vision d'un projet de société, parce qu'on porte des propositions, parce qu'on est dans le débat politique, parce que je suis là ce soir aussi pour porter un débat et avoir une contradiction sur un certain nombre de choses. Mais c'est ça la politique, c'est échanger des points de vue, échanger des propositions. Et on pense qu'il faut refaire ce trait d'union entre des citoyens de plus en plus désabusés par les pouvoirs politiques, par les élus, etc. Et le monde politique dont on a profondément besoin. Nous, à aucun moment, on va mettre une pièce dans le tous pourri qu'on peut entendre parfois du monde politique. Mais non, on a besoin de femmes et d'hommes politiques qui prennent des décisions pour investir dans la transition, agir au quotidien, etc. En revanche, il faut aussi faire le lien avec les citoyens. Et ce qu'on observe parfois, c'est une déconnexion, une méconnaissance de la réalité des vécus, de réalité concrète des citoyens, par un manque d'écoute, en fait, tout simplement. Pas l'envie de comprendre où sont les problématiques, où sont les difficultés, et plutôt l'envie d'être visible sur un certain nombre de propositions et de mesures. Donc ce trait d'union, il est fondamental pour le pacte, et c'est pour ça que, en fait, il y a un certain nombre de citoyens qui sont venus vers nous et qui nous ont dit « mais moi je suis bénévole chez Oxfam, donateur au Secours catholique et militant à la CFDT ». En revanche, il n'y a pas d'espace aujourd'hui, à part un parti, où accessoirement ils n'avaient pas envie de s'investir, où je peux porter un projet de société qui forme un tout et où on ne découpe pas les enjeux les uns à côté des autres. Et cette voie-là, elle est importante, et du coup, on est en train de créer un espace d'engagement citoyen pour que des citoyens qui auraient envie de porter ce projet de société, peut-être en prémisse d'un investissement futur, dans la politique, sur son territoire, dans un collectif citoyen, puisse le porter avec nous, avec les organisations membres du pacte. Et donc, on est en train de le structurer pour qu'il soit prêt pour le début de l'année prochaine. Et puis, l'autre action qu'on mène pour animer cette envie de donner le pouvoir d'agir, c'est qu'on a lancé une école du pouvoir de vivre, toujours dans l'esprit de se dire que la société civile a beaucoup à apporter, a beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, beaucoup de choses à transmettre. Donc, on a créé cette école qui est dédiée aux 18-35 ans, avec une promo de 50 jeunes par an. Donc la première promo sera lancée là le 2 décembre. Et c'est la première formation qui sera dispensée directement par les ONG et les associations et les organisations. C'est-à-dire qu'on ne fait pas venir d'intervenants extérieurs. Toutes les sessions seront dispensées par des binômes. Le premier sur la pauvreté, ce sera Thédé Carmont de Secours catholique. Le second sur l'immigration, ce sera la CIMAD et France Terre d'Asile, etc., etc., etc. Pour apporter des regards croisés et pour transmettre directement ce qu'on fait, essayer d'irriguer l'engagement pour montrer évidemment que cette société civile, elle tient aussi la société. Elle tient bon sur les valeurs de la République qui nous sont extrêmement chères. Et là, dans plein de débats sur la loi immigration au Sénat, on est évidemment heurté par ce qui se dit, touché par vers quoi on va. Donc on va s'exprimer probablement sur le sujet très bientôt. Mais on a envie de transmettre tout ça et de porter cette voix collectivement. Pour conclure, vous dire que cet engagement collectif, il est important parce que nos organisations, elles ont beaucoup à faire au quotidien. Évidemment, on ne s'ennuie pas. En revanche, ces espaces collectifs de faire ensemble, de penser des projets de société ensemble, eh ben, c'est aussi une forme d'énergie qu'on se donne mutuellement pour se dire qu'on est une force collective, et c'est important dans la période. Et puis, à chaque fois, donc, on a des plénières 3 ou 4 fois par an où on se réunit, l'ensemble des 60 organisations. On se dit qu'on continue d'être nourri par cette énergie citoyenne, cette énergie des militants, des bénévoles, des salariés, des organisations qui concrètement aident des personnes en difficulté, proposent des choses, sont des espaces d'alerte sur les questions environnementales par exemple, innovent et expérimentent aussi un certain nombre de choses. On a besoin de cette expérimentation, on a besoin d'essayer de tester, voire de faire des erreurs, mais d'avoir cette liberté, parce que ce chemin qui est devant nous, en fait, personne ne l'a dessiné, et donc il faut qu'on réussisse à le dessiner collectivement. Donc on espère, au pacte du pouvoir de vivre, prendre notre part. Donc cette énergie collective, elle est vraiment importante pour nous dans la période. Je vous remercie.
Merci beaucoup. C'est maintenant le temps des questions pour Amandine Le Breton.
Alors, ce n'est pas une question, mais c'est... Amandine vient de parler qu'il y avait des groupes locaux. Et en Isère, il y a un groupe local qui travaille autour avec une quinzaine d'organisations, syndicats, associations, etc. Et donc, on porte le plaidoyer auprès des députés, du préfet, des responsables de collectivités locales. Et on a deux préoccupations, c'est, je dirais, le logement, la ZFE, donc le problème d'environnement. Voilà. Donc si vous souhaitez être informé, ben, j'ai une petite feuille où vous mettez vos coordonnées de mail. Voilà. Merci.
Bonsoir et merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant. J'avais une question sur l'organisation du pacte du pouvoir de vivre. Vous parlez de 60 organisations. Comment on rejoint ce pacte et quels critères font qu'une association ou un syndicat peut rejoindre ou non le pacte ? Merci.
Alors, on était 19 au début à la création du pacte du pouvoir de vivre. Et en effet, on est aujourd'hui 60. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les organisations qui nous ont rejoints. Enfin, on n'est pas allé chercher des organisations pour nous rejoindre. Il y a vraiment une envie de rejoindre le collectif. On vient d'accueillir au sein du collectif Démocratie Ouverte, par exemple, qui travaille sur la démocratie, notamment citoyenne. Le fait qu'on ait travaillé sur 66 propositions, puis 90, fait qu'aujourd'hui, on a un socle assez défini du projet de société qu'on porte. Donc, j'ai envie de dire, pour une organisation, l'enjeu, c'est d'abord de se reconnaître dans ce socle commun et dans cette vision de la société. Ça, c'est le premier critère. Au niveau national, les organisations qui nous rejoignent, ce sont des organisations qui ont une entité nationale. Une organisation, une association locale, par exemple, ne peut pas, on va dire, candidater pour rejoindre le pacte du pouvoir de vivre. En revanche, comme vient de le dire Régis, il y a 40 groupes locaux un peu partout en France. Et donc, une association locale, même si elle n'a pas de représentation nationale, peut rejoindre le groupe local du pacte du pouvoir de vivre. Donc c'est un enjeu de se reconnaître dans le projet de société et de vouloir porter ce projet collectivement. Je parlais tout à l'heure de confiance. Encore une fois, c'est pas anodin qu'une association environnementale se positionne à travers un collectif sur des enjeux, sur l'immigration, sur l'ESS, etc. Donc il faut accepter de porter à travers le collectif des enjeux qui dépassent ses propres missions. Voilà, c'est clairement ouvert. Mais l'enjeu, c'est vraiment de se reconnaître sur ce projet de société et puis sur cette vision qui est la nôtre de vouloir contribuer et construire, en fait. Nous, la société qui clive, qui isole et qui sépare et qui divise, c'est pas notre vision de la République, c'est pas notre vision de la construction des politiques publiques. Donc il faut partager aussi cette vision des modes d'action.
J'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des équivalents du pacte du pouvoir de vivre dans les autres pays européens ? Puisque vous évoquez la question de la campagne électorale européenne bientôt. Ça, c'est mon premier sujet. Et qu'est-ce qui vous différencie peut-être dans les pays du Nord, aux pays du Sud ou d'autres, oui, est-ce qu'il y a des choses vraiment communes? Et le deuxième sujet, c'est est-ce que finalement le travail que vous menez, alors j'ai bien compris que sur la loi immigration, vous n'avez pas été forcément auditionné par le gouvernement, mais est-ce que c'est finalement, est-ce que les ministres viennent à vous aujourd'hui pour discuter de vos propositions dans le cadre des mesures qui sont posées? Il va y avoir bientôt une loi, la stratégie bas carbone qui va être posée. Est-ce qu'il y a des signes qui vous ont été donnés à ce stade-là? Est-ce qu'il y a d'autres niveaux, finalement, qui sont aujourd'hui en interaction avec vous?
Alors, à ma connaissance, il n'existe pas de collectif équivalent ailleurs en Europe. On m'a parlé, on a fait une conférence à Villeurbanne il n'y a pas très longtemps, et l'universitaire qui était là m'a parlé de collectifs en Espagne, mais qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, et plus sur un enjeu ponctuel. Et donc avec nos collègues donc de la Fondation européenne pour le climat, notamment qui finance en partie nos activités, qui se placent sur toute l'Europe, on réfléchit à peut-être éventuellement voir comment on peut démultiplier ça, même si il ne faut pas calquer les fonctionnements entre chaque pays. En tout cas, ma connaissance, c'est plutôt unique. Sur votre deuxième question, on ne peut pas dire que le gouvernement aujourd'hui soit très proactif pour se tourner vers la société civile, pour dire les choses un peu clairement. Et quand on a des échanges, on sent qu'il y a une sorte de confusion entre consultation, concertation et espace de travail. Pour nous, c'est bien d'être reçu par un ministre et par un cabinet. C'est bien. On échange une heure, on fait nos propositions. C'est pas ça qui va faire qu'on construit la transition écologique. Et nous, c'est ce qu'on regrette. C'est pour ça que, notamment, vous avez entendu parler du Conseil national de la refondation. Sur le papier, ces espaces auraient pu être des espaces intéressants. On rassemblait l'ensemble des parties prenantes, etc., de la société, et on identifiait des sujets sur lesquels on se projetait dans le temps long. Le CNR Logement a eu l'espace pour faire, 200 personnes se sont mobilisées pour travailler, ont fait des propositions en commun, et derrière, c'est repris à minima. Donc il y a une question, au-delà de la méthode, qui est importante, il y a aussi une question d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on considère important? Est-ce qu'on considère que ces espaces de travail sont fondamentaux? Est-ce qu'on considère qu'on peut prendre quelques mois pour travailler sur des sujets? Ça, aujourd'hui, sur une grande partie des sujets, c'est un peu compliqué, en effet, à mettre en place. Toutefois, il y a un espace qui est intéressant, selon nous, c'est le secrétariat général à la planification écologique. Donc, ce secrétariat a été placé sous la première ministre. Et son premier objectif, ça a été Définir le cadre commun pour répondre à la neutralité carbone en France, c'est-à-dire quel secteur doit contribuer à quel niveau, à quel pas de temps, etc. Ce travail, il est intéressant parce que déjà, il est essentiel. Il faut qu'on se donne le cadre commun d'action. Mais aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait ce que doit faire chaque secteur pour répondre à l'enjeu climatique, de biodiversité et de l'eau, il faut répondre au comment. Et comment on construit ces trajectoires, et qu'est-ce que ça veut dire pour tel ménage, qu'est-ce que ça veut dire pour tel travailleur, qu'est-ce que ça veut dire pour tel territoire. Donc le SGPE doit faire ce travail. Nous, on aimerait que ce soit un travail élargi où on puisse travailler, encore une fois, sur le long terme. Et on travaille notamment la base de ce travail avec le SGPE sur le volet social de la planification. Le plan qu'a fait ce secrétariat est très intéressant parce qu'il pose vraiment les choses et c'était nécessaire. Ils ont identifié 60 indicateurs. Il n'y en a pas aujourd'hui sur les enjeux sociaux. Or, la planification s'applique a priori à l'ensemble des ministères, à l'ensemble des politiques publiques. Et donc, il faut avoir simultanément une vision sur la manière dont on avance sur la planification, mais il faut l'avoir simultanément sur les enjeux sociaux. Donc on travaille par exemple à identifier ces indicateurs et on fera des propositions au secrétariat général à la planification écologique.
Bonsoir et merci. J'ai une question sur l'école du pacte du pouvoir de vivre que vous lancez, si j'ai bien compris. Elle va prendre quelle forme? Est-ce que c'est une école où les formations elles se déroulent en présentiel? Est-ce qu'elles se déroulent à distance? Comment vous faites ou vous allez faire pour toucher un maximum de jeunes entre 18 et 35 ans? À titre personnel, j'ai fait une école de commerce et je vois bien en l'espace de 10 ans comment les choses elles ont vachement changé pour que, enfin, même mes anciens camarades deviennent profs aujourd'hui pour aller parler de transition et faire changer les mentalités. Mais ça reste encore un petit noyau de personnes que je dirais privilégiées. Et du coup, voilà, je voulais savoir comment vous comptez toucher un maximum de jeunes et surtout ceux qui sont peut-être le plus éloignés en conscience de ces sujets. Merci.
C'est une bonne question parce que l'école du pouvoir de vivre ne se veut pas toucher que les Bac plus 5 ou que les Sciences Po, pour faire très caricatural. Donc c'est une école, donc c'est 50 participants par promotion. Donc c'est assez peu pour des questions financières que vous allez comprendre assez vite. Donc la majorité des sessions, c'est en visio, deux fois par semaine pendant 1h30, donc animé encore une fois par des organisations et des associations. Et on organise trois journées en présentiel qui se veulent gratuites. Et c'est là où, de fait, il y a un enjeu de limitation de place. Donc on a choisi ce chiffre de 50. Pour cette première année, on a fait dans un temps court, donc, la diversité sera plutôt au rendez-vous, mais pas suffisamment à notre avis. C'est-à-dire que la diversité géographique est là, mais on a encore beaucoup de personnes plutôt diplômées. Donc ce qu'on va faire pour les années suivantes, c'est notamment travailler au sein de nos réseaux, puisque le Secours catholique, par exemple, et beaucoup d'autres, en fait, Oxfam, etc., touchent un certain nombre soit de militants, soit de bénéficiaires ou de personnes aidées qui pourraient être intéressées par toucher le pacte. Et oui, c'est sortir, évidemment, de l'entre-soi. Donc il y a l'entre-soi en termes de niveau d'études, mais également l'entre-soi en termes de militants. On s'aperçoit évidemment souvent que les personnes sont multi-engagées, et c'est très bien, évidemment. Mais comment on fait pour dépasser l'espace militant et justement transmettre ce qu'on est en tant que société civile à des personnes qui auraient envie de s'engager? On sait que les jeunes ont une autre vision de l'engagement que précédemment, c'est-à-dire rejoindre un bureau d'une association pendant 15 ans, c'est plus leur vision de l'engagement. Peut-être qu'il faut des engagements plus ponctuels, plus concrets, etc. Donc il faut aussi qu'on réfléchisse à tout ça. Donc ce qui est assez chouette, c'est que cette première promotion a notamment cette mission de réfléchir avec nous et de s'investir pour trouver des solutions pour être encore plus ouvert et inclusif, nous aussi.
Bonjour et merci. Ma première question concerne les associations environnementales dont vous avez parlé, mais sans les citer. Et ma deuxième concernera plutôt les méthodes d'action. Et donc les méthodes d'action, alors j'ai bien compris l'enjeu de création d'une sorte de référentiel commun qui serait effectivement, qui donnerait à voir. Une des méthodes qui consiste à éduquer, faire de l'éducation populaire finalement. Vous avez parlé également de plaidoyer. Alors ça, on peut être dans des formes d'action concrètes, mais comment on les rend visibles? Et puis finalement, la question que je trouve la plus compliquée en France, c'est comment on développe le pouvoir d'agir. Effectivement, ça signifie d'être près du terrain, d'être sur le terrain, de démontrer aux gens qui peuvent agir. Donc, c'est une implantation forte dans les quartiers. Ça s'est beaucoup développé dans certains pays, mais en France, c'est compliqué. Et donc, du coup, voilà, on ne peut pas remplacer les syndicats d'antan facilement aujourd'hui. La société a complètement changé. Donc, comment on fait? J'ai un peu l'impression que c'est un peu ça le fil conducteur, hein, comment on agit aujourd'hui, comment on remplace. Mais voilà, comment on fait?
Alors, sur les associations environnementales, il y a le réseau Action Climat, la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui est l'ex-fondation Nicolas Hulot. Il y a Humanité et Biodiversité. Il y a Oxfam et FNE au niveau local. Vous avez pointé du doigt exactement la question qui nous mobilise aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un retour ou d'une amplification de l'éducation populaire. Quand on veut promouvoir la politique dans son sens premier, c'est-à-dire la vie de la cité, s'investir dans le collectif et dans l'intérêt général, on doit redonner toute sa place à l'éducation populaire, celle qu'elle a été il y a des dizaines d'années. Et ça, pour nous, c'est une condition de réussite de tout ce dont on parlait et du projet de société en lui-même. Donc vous avez raison de pointer ça du doigt. C'est vraiment les questions qu'on se pose au quotidien. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au sein du pacte du pouvoir de vivre, il y a un certain nombre d'organisations qui font déjà beaucoup d'éducation populaire. Il y a la Ligue de l'enseignement, la Fédération Léo Lagrange, il y a les Petits Débrouillards, il y a, j'en oublie forcément. Donc eux sont implantés, enfin vous parlez d'implantation et c'est essentiel et font ça au quotidien. La force du pacte, c'est de pouvoir, en complémentarité, en articulation avec cette éducation populaire, proposer une éducation populaire sur un projet, peut-être sur une vision plus générale et globale des enjeux, mais toujours en articulation. Donc ce qu'on se dit à un moment, on sait qu'on n'a pas prise sur tout. On fait du plaidoyer, on porte un certain nombre de choses, on porte des propositions sur la transition écologique juste, sur le RSA, etc. Clairement, c'est difficile d'être écouté, on ne va pas se mentir. C'est difficile d'être écouté, c'est difficile d'être entendu. En termes de communication, les choses ont extrêmement changé, même en 5 ans, et je ne vous parle pas d'il y a 10 ans. Moi, je suis arrivée... à la fondation où je travaillais avant, au moment du Grenelle de l'environnement. C'était pas du tout le même espace-temps, quelque part. Quand on portait un travail et quand on faisait une étude, en fait, on pouvait en parler pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, quand on sort une étude ou un chiffre, il y a une durée de vie de 24 heures et le lendemain, et encore dans le meilleur des cas, on passe à autre chose. Donc oui, il y a une difficulté à exister, à faire exister nos propositions, et encore plus si on n'est pas dans la tactique du clash, de cliver, de trouver toujours là où la division se fait. Et donc on est dans ces réflexions-là et je doute pas qu'on y arrive parce que je pense sincèrement qu'on n'aura pas le choix. Et donc cette question du plaidoyer, elle est difficile à rendre visible mais elle est quand même essentielle parce que ce qu'on observe, c'est quand même un certain nombre de députés, d'élus, de personnes dans les administrations qui sentent bien qu'on touche à la limite de la tactique de la division, qui sentent bien qu'on joue un peu aux apprentis sorciers dans une société déjà très tendue, potentiellement violente, et qu'apporter de la division à de la division, le boomerang va nous revenir à la figure collectivement assez vite. Donc il y a des élus qui sont toujours très investis, et c'est avec ces élus-là que nous, on continue de discuter pour faire bouger quelques lignes. On n'a pas le luxe, en fait, d'arrêter cet investissement-là. Donc on continue à faire ce plaidoyer, à porter ces propositions. En revanche, c'est là où on a ouvert ce deuxième volet, plus fort et plus engagé qu'auparavant sur le pouvoir d'agir, avec l'école du pouvoir de vivre, avec l'espace d'engagement citoyen, pour se doter d'une nouvelle corde aussi à notre arc d'action, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, avoir un seul mode d'action, c'est pas simple.
Oui, merci. Moi, je voulais avoir des éclaircissements sur l'audience dont vous parlez vis-à-vis des élus, du gouvernement, etc. et vis-à-vis du monde de l'entreprise. Comment ça se décline sur cet axe-là?
Alors, on ne travaille pas directement en tant que pacte du pouvoir de vivre vers l'entreprise. En revanche, on a des organisations membres qui sont ESS France, par exemple, ou Labo de l'ESS,
qui évidemment travaille sur les nouvelles formes d'économie. Mais nous, on n'a pas une action de plaidoyer, de portage, de proposition, on va dire, avec le monde politique. On a une vision sur l'économie. En fait, on travaille vraiment sur les politiques publiques et comment on fait en sorte que les politiques publiques structurent les transitions de la société de demain. Donc, en ce sens, on a des propositions sur, voilà, sur le secteur économique. Mais on ne travaille pas avec le monde économique directement.
Bonjour, merci pour votre temps, pour votre implication. Vous avez plein de propositions, beaucoup au niveau national, et on sent que la tendance n'est pas du tout, pour le moment en tout cas, vers ces propositions, donc il va falloir beaucoup de courage, de temps pour les amener. Du coup, c'est frustrant de se dire qu'il y a tant de bonnes idées, tant de domaines dans lesquels, pour l'instant, il va falloir encore attendre. Aujourd'hui, on est invité par la métro. Est-ce qu'on n'a pas une opportunité? Est-ce que vous avez dans le pacte des propositions qui semblent réalisables, court terme, à donner finalement à la métro pour se dire, bah, puisqu'au niveau national, on a moins d'écoute et que visiblement, on en a au niveau local, puisque vous êtes invité ce soir, qu'est-ce que le pacte aura proposé à la métro de Grenoble, en fait?
Alors, deux éléments. Au niveau national, on essaye quand même de se dire qu'il y a des petites choses qui peuvent avancer et de les voir. Et c'est important parce qu'on a aussi besoin de cette énergie-là. Donc, je vais citer Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, qui dit que quand même, depuis 2 ans, on parle beaucoup de logement. C'est un sujet, alors qu'il est fondamental dans, évidemment, un certain nombre du quotidien en termes de politique nationale. La question du logement et de la rénovation est, par exemple, devenue centrale. Tout ne va pas assez vite, tout ne va pas assez loin, mais il y a ce type de choses. Bon. Sur le pacte des solidarités, il y a les cantines à 1 euro. Voilà. Donc je ne dis pas que rien n'avance, mais clairement par rapport au schéma général dans lequel on doit s'investir, c'est vrai que c'est compliqué. Sur la partie métropole, alors le pacte du pouvoir de vivre au niveau national, il y a des propositions au niveau national, mais les groupes locaux, eux, ont un investissement local et on considère que ce sont bien les associations locales et les collectifs locaux qui ont la connaissance des problématiques territoriales, des enjeux spécifiques, des populations qui vivent sur le même territoire qu'elles. Et donc, c'est bien chaque groupe local qui fait des propositions dans le cadre et la vision du pacte du pouvoir de vivre, mais pour faire avancer un certain nombre de sujets. Et peut-être, du coup, Régis, si tu veux préciser un ou deux sujets sur lesquels vous travaillez au groupe local Isère avec la métropole, je t'en prie.
Sur la métropole, c'est sur le dossier de la ZFE. Donc on s'est approprié ce dossier et à partir des propositions du pacte national. Donc on a essayé de décliner, je dirais, des points d'attention sur la ZFE. Et puis par rapport au deuxième sujet sur lequel nous travaillons, c'est le logement. On travaille avec les bailleurs sociaux, enfin l'APSIS, pour mobiliser... expérimenter par rapport au problème du logement. On a fait une rencontre avec Christophe Robert l'an dernier, au mois de mars. Et dernièrement, on a fait avec 3 députés de la circonscription et la présidente d'APSIS, je dirais, pour essayer de débloquer la situation du logement sur le bassin grenoblois. Parce que il y a vraiment beaucoup de problèmes. Et donc, les associations, donc il y a le Secours catholique, ATD Carmont, enfin, donc, des associations locales qui travaillent ces sujets. Voilà, je vous invite à rejoindre notre groupe. Et voilà, donc, je vous remercie.
Et pour rebondir sur ce que disait Régis, il y a des groupes locaux, notamment en Haute-Loire, qui se sont investis sur le territoire zéro non-recours au droit, donc ils sont porteurs avec la commune de Ricamari et voilà, ils s'investissent. Donc vraiment, les groupes locaux ont différents modes d'action. Certains font pas du tout de plaidoyer, comme le fait le groupe local de l'Isère. Certains organisent tous les 2 mois, par exemple, des conférences, débats, ciné sur un certain nombre de sujets. Voilà, chaque groupe local s'investit de manière dont il le souhaite.
Merci infiniment, Amandine Le Breton, pour cette première conférence presse.
Merci
Citron.
À vous.
Vous venez d'écouter Amandine Le Breton, directrice du Pacte du pouvoir de vivre. Retrouvez les autres conférences sur grenoblealpesmétropole.fr.